Focus Sahel en direct de Washington sur VOA Afrique avec Eric Manirakis.
Elle pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, la crise sécuritaire au Mali menace l'élevage, secteur vital représentant 19% du produit intérieur brut, entravant la transhumance et l'approvisionnement en bétail des grandes villes ouest-africaines et aggravant les conditions de travail des éleveurs. La rareté des moutons à Bobo Dioulasso bouleverse la tradition de la tabaski, prix exorbitant et approvisionnement limité. Les musulmans font face à un défi sans précédent. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en tournée africaine, a critiqué l'Occident lors de sa visite au Congo-Brazzaville, dénonçant son rôle en Ukraine et en Libye, tout en saluant les initiatives locales. Nous en parlons dans notre fait marquant de la semaine. Des artistes nigériens et béninois unissent leur voix pour la paix malgré les tensions diplomatiques. Un appel à l'unité à travers la musique transcende les frontières. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. L'élevage, autrefois pilier de l'économie malienne, est en crise en raison des troubles au centre du pays. Les marchés de bétail ont fermé les uns après les autres et les pistes de transhumance sont presque inexistantes. Le seul moyen de satisfaire les besoins des capitales telles que Abidjan, Dakar et Bamako reste le transport en commun qui demeure inaccessible pour les éleveurs du Sahel. C'est un reportage de Mokhtar Bari.
Le Mali, autrefois considéré comme un pays d'élevage par excellence, les crises sécuritaires qui sévissent dans le Sahel ont engendré plusieurs problèmes pour ce secteur, qui constitue 19% du produit intérieur brut. Si les éleveurs qui avaient pour habitude de longer les routes pour gagner les pays voisins du Mali comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, surtout à l'approche de la Tabaski, le phénomène du terrorisme a mis un frein à cela. Ndebi Bokoum sillonne les quelques rares marchés toujours en activité dans le centre du pays.
Aujourd'hui, la transhumance à pied, c'est fini. Nous allions à Mopti et des marchés de bétail environnants, mais aujourd'hui, tout cela s'est arrêté. Nous ne pouvons plus nous rendre à Déré, nous allons juste à Nyono pour charger les animaux et les ramener à Bamako.
Les groupes armés terroristes et des milices d'autodéfense sont pointés du doigt sur les razzias des bétails. Ousmane Maïga, qui est dans cette activité depuis une trentaine d'années, s'offusque des conditions dans lesquelles il travaille aujourd'hui.
C'est les camions ou les cars nous restent comme moyen de transport. Et cela à 3 000 ou 4 000 francs CFA par tête de mouton de Mopti à Bamako. Tu ne peux pas non plus te déplacer avec la liquidité. Il y a trop de difficultés vraiment. Nous sommes obligés d'acheter nos moutons dans les villes et ensuite les transporter. C'est vraiment excessif.
Au Mali, au moins 80% de la population pratique l'élevage. L'instabilité au centre du pays, qui constitue la zone de concentration du cheptel malien, a eu pour conséquence la flambée des prix du mouton. Ndebi Bokoum, éleveur, et Samba Cissé, chef du grand marché de bétail de Bamako, interpelle les autorités.
Il va falloir que l'État ait un regard attentif sur les commerçants de bétail. Nous leur demandons de ne pas nous confondre avec les bandits armés. Après tout, s'il plaît à Dieu, si la paix revient, tout reprendra normalement. Mais en attendant, nous demandons à l'État de s'occuper de nous et de nos animaux.
Du Mali jusqu'au Ghana, c'est le Mali qui ravitaille toute la zone en bétail. Rien que tout, après les autorités sénégalaises nous offrent des facilités pour acheminer le bétail en vue de la fête de Tabaski. Donc le Mali qui est comme l'usine ne doit pas rester à la traîne en matière d'appui à la filière.
L'élevage est la principale source de revenus de 30% de la population malienne. Le bétail est le troisième produit exporté après l'or et le coton. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.
Nous sommes en ligne avec Mokhtar Bari pour continuer la discussion sur les défis auxquels font face ces éleveurs. Mokhtar, bonsoir.
Bonsoir.
Comment les médias locaux traitent-ils la question de l'élevage en cette période de crise sécuritaire? Y a-t-il des initiatives médiatiques pour sensibiliser le public et les autorités à la situation des éleveurs?
Il faut dire qu'avec la crise que connaît le Mali, particulièrement au niveau du centre, et la question de l'élevage est devenue, à chaque fois avec les attaques et tout ça, il n'y a pas d'initiative en tant que telle. Sauf, par exemple, au niveau de la communication gouvernementale, quand il y a les couvre-feux ou quand il y a des zones à risque ou des zones de guerre où des personnes ne doivent pas aller où il y a des restrictions, le gouvernement communique à travers ses canaux officiels tels que la radio nationale et puis aussi certaines radios locales. Mais il n'y a pas d'initiative proprement parlant pour essayer de juguler cette crise qui fait face aux éleveurs.
Quelles sont les mesures que le gouvernement malien a prises pour soutenir les éleveurs en difficulté et comment les éleveurs perçoivent-ils ces mesures?
Généralement, on perçoit ces mesures à l'approche des fêtes du Ramadan et de Tabaski. Et par exemple, à Bamako, qui s'approvisionne sur les marchés du centre du Mali. Il y a des corridors où on facilite l'arrivée du bétail dans les villes de Bamako. Et au niveau de Bamako également, les 5 communes érigent des marchés de bétail pour pouvoir faciliter l'écoulement de l'acheminement d'abord du centre à Bamako et aussi l'écoulement au niveau du centre du Mali. Et vous voyez la récente visite du président Diomaye Faye, il était question d'approvisionner le marché sénégalais en moutons. Et je pense que les autorités maliennes ont pris des mesures pour que, effectivement, le Sénégal soit ravitaillé en bétail. Et il y a 2 ans de cela, ils avaient fait la même chose pour la Côte d'Ivoire.
Merci Mokhtar Bari pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires des auditeurs sur notre page Facebook. Simplice Sano dit ceci, les terroristes se sont transformés en voleurs de bétail, mais grâce à la résilience de nos forces de défense, cette activité est maîtrisée. Charles Bazema, il dit, je cite, « Cette situation d'insécurité a mis en évidence la faiblesse de nos États, tout en offrant à nos dirigeants l'occasion de construire une armée forte et républicaine. Elle permettra également de mettre en place un système de contrôle des frontières. Cependant, la situation sécuritaire a un impact négatif sur l'économie qui est le pilier d'un pays. » Nous approfondissons la discussion avec Flore Berger, analyste Sahel du JITOC, l'Observatoire des économies illicites en Afrique de l'Ouest au sein de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Nous avons eu au téléphone Flore Berger tout à l'heure et commence à s'exprimer sur l'importance économique et sociale de l'élevage pour les populations de la région du Sahel, en particulier pour les groupes comme les Peuls et les Touaregs. Suivez.
Alors, dans la région du Sahel, je pense qu'on peut dire qu'il y a vraiment 2 piliers économiques importants. Le premier, c'est l'élevage, et le deuxième, c'est l'orpaillage. Donc, pour les populations de la région du Sahel, c'est vraiment ces 2 piliers-là sur lesquels les communautés se basent. Après, pour les peuls en particulier, c'est vrai que l'élevage est vraiment clé pour eux. Donc les peuls sont majoritairement des éleveurs, donc ils vivent avec leurs animaux, ils peuvent être nomades ou semi-nomades. Ils sont dans les activités d'élevage de bovins et de petits ruminants. Après, il faut quand même nuancer en disant qu'il y a bien des peuls dus aux difficultés liées à l'élevage qui sont aussi actifs dans l'agriculture. Et donc, ils essaient de diversifier un peu le revenu au vu de la complexité en fait de l'élevage et de la vie nomadique de manière générale au Sahel.
Pouvez-vous expliquer comment les mesures prises par les gouvernements pour soutenir le secteur de l'élevage dans la région du Sahel ont été perçues par les communautés d'éleveurs? Y a-t-il des lacunes ou des réussites notables dans ces actions?
Oui, donc comme je disais précédemment, c'est vrai que le secteur de l'élevage est vraiment en difficulté dans le Sahel, non seulement à cause de l'insécurité et de l'instabilité créée par les groupes extrémistes violents, les groupes de défense communautaire, enfin, tous les groupes armés actifs dans la région, mais aussi à cause d'autres facteurs, et notamment tout ce qui est en lien avec le changement climatique, qui est vraiment... font des éleveurs des victimes et qui compliquent vraiment la possibilité de faire de l'élevage sa source principale de revenus. Et donc au niveau des mesures prises par les gouvernements, bon, elles sont assez limitées. Par exemple, si je prends les zones où l'élevage est le plus important au Mali, donc c'est le centre et le nord du pays, et c'est des zones qui sont largement en dehors du contrôle des autorités. Donc les mesures prises sont tout de même assez limitées. C'est le cas aussi par exemple au nord du Burkina Faso. Et il faut aussi noter que les autorités, malheureusement, voient souvent les communautés peules, les communautés d'éleveurs comme des communautés proches des groupes djihadistes. Donc il y a vraiment un amalgame qui est fait à ce niveau-là par les autorités. Et donc les peules sont plutôt menacées par les autorités, également tuées lors d'opérations contre terroristes, justement à cause de cet amalgame. Donc les autorités ne sont pas vraiment dans une position de renforcer la résilience des communautés dans l'élevage à l'heure actuelle.
Quelles sont les alternatives viables pour ces éleveurs sahéliens face à la fermeture des marchés traditionnels de bétail et à l'insécurité croissante sur les routes de transhumance?
Oui, les alternatives viables, je pense qu'elles deviennent de plus en plus importantes du fait des difficultés liées à l'élevage, comme je disais auparavant, donc non seulement à cause de l'insécurité, mais aussi liées au changement climatique et à la stigmatisation de la communauté peule par les autorités. Donc au niveau de ce qui existe dans des alternatives, alors certains ont carrément abandonné l'activité et se retrouvent dans les grandes villes pour essayer de trouver d'autres activités avec lesquelles ils peuvent générer des sources de revenus. Sinon, il y a aussi des éleveurs justement qui essayent de diversifier leurs activités, c'est-à-dire qu'en plus de l'élevage, ils vont essayer par exemple aussi d'être actifs dans le petit commerce, par exemple, où certains vont aussi faire de l'agriculture. Donc ils essayent de diversifier un peu leurs sources de revenus pour qu'ils ne soient pas complètement dépendants de l'élevage.
Et dans quelle mesure le trafic de bétail est-il utilisé pour financer les groupes terroristes et armés dans la région du Sahel? Quels sont les mécanismes de ce financement et quelles actions pourraient être entreprises pour le contrer?
Oui, alors le vol de bétail est une source importante de financement des groupes armés. Comme je disais, les deux piliers de l'économie au Sahel sont l'orpaillage et l'élevage. Donc les groupes djihadistes et notamment le groupe lié à Al-Qaïda, le JNIM, c'est vraiment inséré dans ces deux piliers, dans ces deux économies locales, on va dire, du Sahel. Et donc mène le vol de bétail avec tout un réseau d'intermédiaires qui inclut par exemple les courtiers, les transporteurs, les gérants de marchés à bétail dans toutes ces zones-là. Donc avec tout ce réseau, le bétail est en fait vendu dans ces marchés à bétail et donc une partie de l'argent de ce bétail volé revient directement au groupe djihadiste. Et on parle de plusieurs millions de dollars par année de revenus pour les groupes djihadistes et le vol de bétail. Et donc non seulement c'est une source importante de revenus, mais ça a aussi un impact très important sur les communautés parce que les groupes djihadistes vont enlever un troupeau entier en un incident, en une journée, enfin un incident. Et donc l'éleveur en question se retrouve complètement sans aucune source de revenus, carrément sans rien du jour au lendemain. Donc c'est extrêmement, ça rend les communautés qui vivent dans ces zones-là extrêmement vulnérables.
Merci à Flore Berger pour cet entretien qu'elle nous a accordé. Elle est analyste Sahel du JITOC, l'Observatoire des économies illicites en Afrique de l'Ouest, au sein de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
À Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, des milliers de fidèles musulmans risquent de ne pas pouvoir sacrifier un mouton cette année pour la fête de la Tabaski. À moins d'une semaine de cette célébration, la rareté des moutons se fait sentir, d'autant plus que les voies de transport sont fermées, nécessitant des convois militaires escortés pour acheminer les moutons vers certaines régions. Voici le reportage d'Alidou Ouedraogo à Bobo Dioulasso.
Nous sommes à Garbal, le marché du bétail de Bobo Dioulasso. Jadis rempli de moutons à l'approche de Tabaski, il présente cette année un visage inhabituel. Les camions qui arrivent sont scrutés mais n'apportent aucune bonne nouvelle. Mahama Ouattara est commerçant de bétail depuis une trentaine d'années.
Et vraiment, il n'y a pas de moutons parce que les moutons ne viennent pas. Avec la crise, là, les moutons ne viennent pas. Les convois aussi, les moutons où les moutons quittent, là, les convois sont lents aussi. Une fois dans le mois, le convoi vient. Vraiment, les moutons ne viennent pas.
Conséquence, le prix du mouton est hors de portée des clients, explique Mahama Ouattara.
180 000 ce mouton-là. D'accord. Ça aussi, vous voyez le bélé, gros bélé là. On fait ça à 200 000. 200 000 ce bélé là. Voilà. Ça aussi, le coup noir là, vous voyez, il est vraiment balèze. Voilà, vraiment, il est balèze. On peut faire ça aussi à 210 000. Vraiment, 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 le marché de bétail de moutons aujourd'hui, c'est un peu cher, c'est un peu cher, vraiment.
Cette situation pourrait être risquée pour les acheteurs de dernière minute, nous dit un autre commerçant, Amadou Gadiaga.
Si vous attendez à la dernière minute, vous venez, ça va manquer. Parce que quand tu ne peux pas venir à la veille des fêtes, celui que tu vas acheter chez lui, là, il ne peut pas partir en boulot pour venir amener encore. Le petit qu'il a là, c'est ça qu'il va vendre. Forcément, ça va manquer.
Youssouf Savadogo rentre chez lui les mains vides. Les prix sont trop élevés pour lui, mais il dit comprendre la situation.
Ça se comprend. Les éleveurs ont fui leur localité. C'est la cause de cette meurtre.
Nous l'avons trouvé assis dans son quartier au secteur 4. Alassane Nana, la cinquantaine, donne un conseil à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un mouton cette année.
Bon, maintenant, il y a un maintenant,
quand on n'a pas assez de moyens, ce n'est pas forcé. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de moutons, mais reconnaissons que les commerçants exagèrent.
Ici, c'est le carrefour d'une place. très bien connu des Bobolais, une place qui est transformée en marché de bétail à l'approche de l'Aïd El Kébir. Aujourd'hui, le constat est là. Il y a juste seulement moins de 10 moutons ici. Cela témoigne que la ville en manquera vraiment pour cette fête du mouton. Ali Doué Draogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Dans notre fait marquant de la semaine, la tournée africaine de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qui suscite des questions sur les objectifs stratégiques de la Russie en Afrique et ses répercussions sur les relations internationales. Les déclarations de Lavrov alimentent également les débats sur l'influence russe et ses implications géopolitiques. Nous en parlons avec l'analyste spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Kan. Monsieur Kan, bonsoir.
Bonsoir.
Quels sont les principaux intérêts économiques et géopolitiques de la Russie en Afrique et comment ces intérêts sont-ils liés à la stratégie géopolitique plus large et dans son opposition à l'Occident?
Intérêt géopolitique, oui. Intérêt économique, presque rien, parce que la Russie n'a vraiment pas besoin des ressources minières, minérales ou énergétiques d'Afrique. La Russie est suffisamment riche pour pouvoir se servir et servir d'autres pays. Mais d'un point de vue géopolitique, la Russie a besoin des États africains dans une forme d'alliance de revers. Elle est confrontée aux puissances occidentales en Europe, notamment dans la guerre qu'elle mène actuellement en Ukraine, et elle veut créer, contre l'alliance des pays européens, des problèmes sur n'importe quelle part du globe aujourd'hui, et l'Afrique semble être la place de prédilection où les Européens étant tellement en difficulté avec beaucoup de pays que la Russie peut jouer les tout brouffettes. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas du Niger, où elle a pu, la Russie a pu supplanter les Américains. Imaginez un peu ce que cela peut signifier de manière symbolique au plan des relations internationales actuelles, et elle essaie actuellement de le faire au niveau du Tchad. Donc, d'un point de vue géopolitique, la Russie conteste la suprématie des Européens sur le continent africain.
Quelles initiatives concrètes la Russie pourrait-elle proposer pour aider à améliorer la gouvernance, à réduire le chômage et à promouvoir les libertés publiques dans les pays visités lors de la tournée de Lavrov?
Alors, cette question est très intéressante parce que autant en Afrique, que ce soit dans le cadre de la CEDEAO ou de l'Union africaine, le combat est pour la bonne gouvernance, pour le respect des droits de l'homme, pour le retour à l'état de droit dans des pays où il y a eu des coups d'État, alors que le combat de la Russie, c'est justement le souverainisme, la stabilité politique, sécuritaire, et donc tout le contraire de ce que les États africains sont en train de faire. Je pense que deux exemples me permettront d'illustrer cette démarche. Prenez le Burkina Faso à l'heure actuelle. Il a signé des accords avec la Russie, mais le Burkina fait tout pour bloquer le retour à une situation constitutionnelle normale dans son territoire et est soutenu de ce point de vue-là par la Russie. Prenez le Niger voisin, c'est la même démarche. Il y a eu un coup d'État. La CEDEAO a même imposé des sanctions que beaucoup ont considérées comme iniques. Mais la Russie vient en soutien au régime et en lui disant « Je suis prêt à t'accompagner dans tout ce que tu veux, pourvu que tu puisses libérer ton pays et pourvu que tu puisses continuer à gérer. » Et ça, je pense que c'est l'élément déstabilisateur à l'heure actuelle dans la région du Sahel et ça explique toutes les difficultés que l'on rencontre à l'heure actuelle pour que ces pays-là retournent à la maison mère, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Et que la CEDEAO arrive aussi à mettre, en tout cas, jeter les ponts d'un dialogue vraiment utile pour que la paix et la sécurité reviennent dans la sous-région, surtout dans un cadre qui respecte l'état de droit et qui respecte les droits de l'homme. Cela ne se fait pas, et en partie, c'est à cause de ces alliances-là que la Russie est en train d'établir.
Merci beaucoup, Imre Makan, pour toutes ces précisions. Merci de votre expertise. Bonne soirée chez vous à Dakar.
Merci et à bientôt. Au revoir.
Des artistes du Niger et du Bénin ont récemment pris position face à la détérioration des relations diplomatiques entre leurs deux pays, exprimant un appel à l'apaisement. Ils ont uni leurs voix dans des chants pour promouvoir l'unité et la paix entre ces deux voisins. Abdelrazak Idrissa, notre correspondant au Niger, a interviewé l'un de ces artistes pour en savoir plus sur leur initiative. Suivez.
C'est quelques jours après son retour de Parakou au Bénin où la chanson a été enregistrée. Kazis Tony nous reçoit dans son studio à Niamey pour nous parler du projet de cette chanson.
Cette idée, elle est venue de Borosman qui est au Bénin, qui est le président des artistes du Septentrion du Bénin. Donc il m'a appelé, il m'a dit bon voilà, on est des artistes. On doit jouer notre rôle d'artiste.
Aziz Tony approuve l'idée et y associe deux autres artistes nigériens. Ensemble, ils décident de se rendre au Bénin pour l'enregistrement, sauf que la frontière entre les deux pays est fermée.
On a pris un vol par le Burkina, on est parti passer par Cotonou, on est rentré à Parakou. C'est à côté, c'est plus proche de passer par Gaya, par Malanville et se rendre à Parakou, c'est plus proche. Mais bon voilà, comme ça s'imposait, on a dû faire le détour et pour s'y rendre quoi, parce qu'il fallait que tout coup de feu sur son pour appeler vraiment à la paix, à la calmer.
Le son et le clip sont produits et diffusés. En quelques jours, ils cartonnent sur les plateformes de diffusion et sur les réseaux sociaux.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce son et c'est vraiment un acte très salutaire.
Ce que j'ai beaucoup aimé, ils ont utilisé nos langues nationales. Ça montre combien de fois on est unis.
C'est vraiment une bonne idée pour que les dirigeants puissent prendre conscience à travers les paroles.
Un succès et des retours positifs qui ont surpris les initiateurs même de la chanson.
Ce projet, je ne l'ai pas imaginé sur la posture sur laquelle il est. En fait, les retours qu'on a, c'est de partout, la sous-région, jusqu'à l'Europe. J'ai des retours énormes par rapport à ce son. Et en fait, les gens ne cessent de dire « Ah, il fallait y penser. Ah, il fallait y penser. Ah, l'initiative, elle est salutaire. Ah, vous avez bien fait. » Je dis dedans, il est temps qu'on vienne s'asseoir, qu'on se parle entre nous, qu'on mette de l'eau dans nos vins, pour l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça le message de mon couple.
Les autorités militaires nigériennes gardent toujours la frontière fermée pour des raisons, disent-elles, de sécurité. Depuis le 5 juin, 5 Nigériens travaillant pour la société en charge du pipeline pétrolier devant acheminer le brut au port de Sémé sont détenus par les services béninois de sécurité. Niamey parle de kidnapping. Ces artistes espèrent que leur appel sera entendu. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique. Niamey.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manirakiza était avec vous au micro. Lionel Runanilagahima et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la production. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.
Focus Sahel, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.